Veuillez composer le code d'accès à la conférence.
Bonjour, bienvenue chez Moneta.
Bonjour, pour la salle de COP.
Bonjour, Karine Genesco.
Bonjour, merci Pierre Kenny.
Bonjour, Nathalie Marcoux-Sarrazin.
Bonjour.
Oui, bonjour, Bénédicte Courtois, papa.
Bonjour, Marc Loupé, Arcia Banque.
Bonjour, vous allez bien?
Très bien, et vous?
Ça va.
Je suis arrivé. Mon survie, ouais.
Allô.
Oui, bonjour, Harold de Villemandy.
Bonjour.
Bonjour, Harold.
Bonjour, Tanguy Offret, à Stradus.
Bonjour Arnaud Détré, pour Zanda.
Bonjour, Jim Cousson, qu'est-ce que j'ai
perdu Bonjour, Marie de Solo. Bien, c'est Paribas.
Allô.
Oui, bonjour, Véronique Éclier, qu'est-ce que j'ai mis à
Allô.
Oui, allô.
Bonjour, Louis Friot.
Bonjour, Bruno Félix de la Toxine.
Bonjour. Bonjour, Bruno.
Bonjour.
Valentin, Justine.
Comment tu es?
Valentin, tu es là?
Oui, je suis là. Est-ce que tout le monde a bien la présentation sous les yeux?
Oui,
c'est une. Aujourd'hui, il n'y a que le son, il n'y a pas l'image.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ah, je recoupe mon micro.
On attend encore quelques minutes. Hein.
Oui. Oui, vous êtes là?
Bonjour. Arlene Tarikane, mon constructeur.
Bonjour, Karen Brosvin, mon calatine.
Alors, toi, je te propose de commencer?
Oui, d'accord, mais je... Okay. Est-ce que Fabrice est là aussi?
Oui, bonjour à tous.
Je suis sur le prêt.
Parfait. Évidemment, on aura des questions-réponses à la fin de l'intervention. Donc, pour l'instant, si c'est possible, chacun de bien se mettre en mute, de façon à ce que la discussion ne soit pas gênée. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus, je crois, nombreux, parce que j'entends beaucoup de connexions. Une personne doit être sur le haut-parleur, parce que j'entends ma propre voix. Donc, si jamais cette personne peut couper le haut-parleur. Merci beaucoup. Parfait. Donc merci beaucoup à tous d'être venus nombreux pour assister par téléphone à la présentation des résultats de BACPAC pour l'année 2019, en cette période particulière. On espère qu'on aura rapidement le loisir de revoir chacun d'entre vous. On commencera par un déroulé absolument classique auquel vous êtes tous familiers. Je commencerai par une introduction et un rappel de quelques chiffres historiques. Évidemment, je dirai un mot sur les conséquences de la pandémie actuelle sur notre activité en France, en Allemagne et en Espagne. Et ensuite, Fabrice présentera les performances opérationnelles des nouveaux constructeurs dans ces différents marchés. Et j'apporterai ma contribution pour ce qui est de l'entreprise et de l'étranger. Et Paul Antoine prendra le relais pour la présentation de la performance financière. Comme nous ne sommes pas tous ensemble, on a plutôt privilégié le fait de faire une présentation magistrale au départ et ensuite d'ouvrir les questions. Mais si quelqu'un a une question au milieu de la conversation, il n'y a évidemment aucun problème pour nous interrompre. Donc on commence par la page 2, donc de déroulé. Ensuite, la page 3, l'introduction, là vous voyez les premières esquisses de notre très beau projet organique de Brunzo, gagné avec deux de nos confrères, Ikea Benexiti, et puis Agir et l'Estate, notre partenaire investisseur habituel. Bien. Pour information, on a signé la promesse avec l'aménageur dimanche, juste avant les élections municipales, samedi, puisque c'était samedi matin à 6h30 du matin, donc c'est encore tout à l'honneur de nos équipes en plein début de pandémie. La réorganisation juridique qui vous est présentée, page 4, certains d'entre vous sont déjà très familiers, mais je voulais en dire un mot rapide. Historiquement, donc au moment où on a acheté la participation de 60% dans Marignan, la société tête et côté s'appelle, donc en novembre 2018, les nouveaux constructeurs, et ça crée quelques petites difficultés entre les deux sociétés, puisque on avait une société concurrente qui était maison mère de son concurrent dans le même secteur. Et donc ça nous crée quelques petites difficultés en matière de développement, en matière de clarté des relations d'indépendance entre les deux sociétés, qu'on a voulu clarifier et simplifier en faisant évoluer l'organigramme juridique. C'est la raison pour laquelle on a changé la dénomination sociale de la société cotée qui publie les comptes et dont on présente les résultats aujourd'hui. Et on a filialisé l'activité de prestation de services qui était dans cette société cotée pour créer une entité qui réalise toutes les missions de promotion sous la marque Les Nouveaux Constructeurs. Et donc aujourd'hui, Les Nouveaux Constructeurs et Marignan, comme vous voyez dans le bas de la page 4, Les Nouveaux Constructeurs et Marignan sont sœurs indépendantes à côté l'une de l'autre et avec des gouvernances qui sont strictement différenciées. Les autres sociétés dont nous sommes actionnaires, vous les connaissez pour certaines d'entre elles. Évidemment, sur la droite de la page, on a Première Espagna, notre filiale en Espagne, Concept Bau, notre filiale à Munich, qui font tous les deux le même métier que les nouveaux constructeurs, et puis ZAP, c'est notre activité de préfabrication de garage. Les deux petites nouvelles françaises au centre de la page, mais qui sont anecdotiques comparées à l'ensemble de nos opérations, sont Main Street, qui est la détention de commerce de tes immeubles, et quoi, que nous sommes actuellement de référence aux côtés des fondateurs de cette activité de Page 5, le nom BACPAC. On a choisi de changer le nom de la société. L'origine est familiale, c'est le nom d'une abbaye bénédictine millénaire de Charente, qui est liée à l'histoire de nos grands-parents et oncles. Et donc on a trouvé sympathique d'utiliser un terme qui puisse se prononcer dans pas mal de langues, qui soit simple et qui soit évidemment gratuit, puisque le rebranding nous a coûté le prix d'une tablette de chocolat, donc c'est assez raisonnable, puisque par ailleurs on a fait le logo en interne avec une police du digital. Donc vous ne serez pas surpris par des budgets exceptionnels de ce côté-là. Ensuite, on a les page 5, on a repris deux décennies d'histoire avec Paul Antoine, parce qu'il me semblait important, comme c'est quand même une naissance, entre guillemets, pour la société de la SAS, même si ça n'est qu'un changement d'administration, il me semblait important de refaire un zoom arrière sur plusieurs décennies d'histoire, où vous voyez l'évolution tout à fait saine de notre activité à la fois en chiffre d'affaires et puis en résultat opérationnel. Avec une évolution assez profonde qu'on voit moins à travers les purs chiffres, mais une évolution assez profonde aussi de notre modèle d'affaires, puisque évidemment aujourd'hui vous avez une partie de cette activité, une partie importante de cette activité qui vient de l'étranger, et une partie significative aussi qui vient de l'immobilier entreprise, enfin significative, une dizaine de pourcents disons. Donc ça c'est pour la page 6. Évidemment, je serai à votre disposition pour répondre à vos demandes de questions à la fin de cette présentation sur ces chiffres historiques. Page 7, on a repris aussi l'évolution historique de nos fonds propres. Alors évidemment, vous avez eu une évolution très forte en 2006, c'est parce que c'est l'année de l'introduction en bourse de la société. Donc on a eu un renforcement des fonds propres, c'était une pure augmentation de capital. Vous voyez une évolution négative en 2008, puisqu'on avait réalisé des pertes en Espagne. La société était restée parfaitement profitable en France, mais elle avait réalisé des pertes en Espagne, notamment sur des terrains qui avaient dû être gelés à l'époque de la crise financière et immobilière espagnole de 2008. Et ensuite, une belle progression de nos fonds propres depuis cette période, sachant que depuis l'introduction en bourse de 2006, nous avons commencé à payer des dividendes. On a commencé par 65 000 euros et on était à 2,50 € depuis quelques années. Donc il faut bien comprendre que l'évolution de ces fonds propres aurait été encore plus rapide si jamais nous n'avions pas distribué de dividendes. Donc on a déjà une évolution qui est assez belle, puisque vous voyez qu'on passe de 173 millions d'euros en 2008 à 495 cette année, et tout ça en distribuant une quarantaine de millions d'euros de dividendes au cours des années récentes. Parce que je pense que la première distribution de ce type était en 2007.
Toujours la point avec zéro incorporel dans ses fonds propres.
Et contribution tout à fait importante de Paul Antoine, une caractéristique de BASAC et anciennement les nouveaux constructeurs, c'est que nous n'avons absolument pas d'incorporel au bilan, un actif. Je crois qu'on a 79 000 euros pour le temps, si je ne me trompe pas, il doit y avoir quelques logiciels, des choses comme ça. Donc c'est vraiment absolument anecdotique. Pas de marque, pas de carte d'acquisition. Évidemment pas de brevet dans notre industrie pour l'instant. Et donc ces fonds propres financent des actifs tangibles durs, puisque c'est essentiellement des stocks et des créances clients sécurisés par des financements notaires et de la trésorerie. Donc ça nous donne évidemment une très bonne confiance pour l'avenir. Page 8. BASAC en 2019, donc les résultats les plus importants, les chiffres les plus importants. Une première chose, c'est on a encore connu une progression de nos ventes en 2019, avec une augmentation de 9% comparée à 2018, ce qui reflète l'évolution importante qu'on avait connue du portefeuille foncier, qui a fini par se transformer dans les semestres récents. Et donc, même si cette transformation s'est ralentie en raison de la proximité des élections municipales, on a néanmoins encore connu une augmentation de ventes, puisqu'il y a eu une très forte augmentation du nombre de lancements commerciaux et du nombre de la quantité d'offres à la vente, compte tenu des très bons résultats de développement des années 2012 à 2017. Chiffre d'affaires en hausse, donc ça vous l'avez déjà constaté puisqu'on avait publié en janvier l'activité. Donc avec plus 16% de chiffre d'affaires, toujours là on est à périmètre constant, et c'est essentiellement lié, je vous disais, à l'augmentation de l'activité liée à la transformation du portefeuille. Un niveau de marge opérationnelle qui est encore très satisfaisant, puisqu'on est à 16,2% au lieu de 18,4%, il y a des effets d'une certaine amplitude, une certaine volatilité annuelle, parce que notamment la rentabilité à l'étranger, elle dépend du programme de livraison de l'année. Si jamais vous livrez un programme particulièrement rentable à Munich une année, vous pouvez booster la rentabilité opérationnelle de cette année de façon très forte. Et par ailleurs, nos activités françaises ont été très rentables pendant l'année 2018, liées au cumul en fait d'un environnement commercial assez favorable et de signatures de travaux qui ont lieu dans les années 2015-2016, qui étaient dans des contextes tout à fait favorables. Le résultat net qu'on a réussi à maintenir à peu près stable pour l'année, qui passe de 98 à 97 millions d'euros, donc avec là aussi une performance tout à fait solide, sachant que pour les mêmes raisons, ce résultat net, il peut être assez volatile en Allemagne et en Espagne, puisqu'il dépend du programme de livraison. Ce que je rappelle à tout le monde, qu'en Allemagne et en Espagne, nous reconnaissons le chiffre d'affaires et le profit à la livraison et non pas à l'avancement comme en France. Et peut-être la très bonne nouvelle ou la meilleure nouvelle de l'année, qui est la baisse très sensible de l'endettement net, qui était déjà tout à fait maîtrisée et raisonnable au début d'année, puisqu'on était à 50% de son propre tangible. Mais on l'a baissé de façon vraiment très sensible, notamment pendant la deuxième partie de l'année. Souvent, on était un tout petit peu plus vigilant sur les encaissements clients, sur la rapidité de transformation des opérations. Et puis, évidemment, en achetant un petit peu moins de terrain que prévu, en raison de l'allongement de certaines opérations dans le cadre des élections municipales qui arrivaient en mars. Donc ça, c'est évidemment aussi un contributeur de la baisse du BFR, et donc de la baisse de l'endettement. Mais néanmoins, on n'a pas de contribution forte de la part de nos clients et de la baisse des dépenses. Les indicateurs avancés d'activité sont tout à fait satisfaisants. On a 1,5 milliard de carnet de commandes quasiment pour 976 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça nous donne à peu près 10 millions de bonne visibilité et un portefeuille foncier d'une vingtaine de milliers de logements qui donne aussi une excellente visibilité. Vous avez vu qu'on a fait un peu plus de 4000 ventes, donc c'est quasiment 30 ans d'activité devant nous en portefeuille foncier, notamment une bonne performance en développement. Face à la page 9, BASAC toujours en 2019, l'investissement dans Marignan. Alors qui date de 18, de novembre 2018, une participation de 60% aux côtés d'un fonds d'investissement anglais Aermont Capital qui a pris 40%. Notre contrôle est conjoint avec des droits assez étendus d'Aermont qui explique pourquoi est-ce que la participation dans Marignan n'est pas consolidée mais mise en équivalence. Et ça se fait malgré les difficultés récentes rencontrées, ça se fait vraiment avec un niveau de confiance et une qualité de collaboration avec Aermont qui est rare. Les deux sociétés, comme j'expliquais dans le cadre de la réorganisation juridique, restent strictement indépendantes et concurrentes. On a déjà eu pas mal de cas de figure l'un en face de l'autre, et évidemment zéro coordination avec des gouvernances de sociétés qui sont strictement séparées. Pour les rappeler rapidement, Fabrice, qui est au téléphone avec nous, Véret, et président directeur général de Les Nouveaux Constructeurs, et Renaud Arvez, qui est en charge du développement Île-de-France en particulier, et directeur général délégué. Évidemment, Paul Antoine est directeur financier de Les Nouveaux Constructeurs en plus de BASAC. Et côté Marignan, on a Stéphane Carvarelli, qui est directeur général délégué, plus opérationnel, je dirais, que Renaud en termes de développement, qui est plus un rôle de directeur général, et Emmanuel Thomas, qui est président de la société. Emmanuel, ce que certains d'entre vous ont croisé, puisqu'il était auparavant patron de l'activité de préfabrication de Rastla, et il restera par ailleurs mandataire social de l'activité de promotion immobilière à Munich. Donc Emmanuel Thomas, président de la société de Marignan, et puis évidemment Frédéric Armeneux, que beaucoup d'entre vous connaissent, directeur financier de Marignan. La première année de Marignan a été, on peut la qualifier de contrastée. Vous savez qu'on n'est pas, des fanas de pas dire les choses quand elles se passent pas aussi bien que prévu. Et donc, de façon transparente, les réservations baissées comparées à ce qu'on avait anticipé. On a vu faire évoluer la gouvernance, notamment en raison de cette contre-performance opérationnelle, avec des niveaux de rythme qui étaient un peu plus faibles que ce qu'on aurait souhaité. un chiffre d'affaires qui s'est relativement bien maintenu à 550 millions d'euros, mais en revanche un niveau de marge opérationnelle là qui est conforme à la performance passée de la société qu'on n'a pas encore amélioré, qui est de l'ordre de 4%, et qui tient au fait que même si jamais on peut apporter dans les années qui viennent, on a apporté récemment des améliorations opérationnelles à la façon de fonctionner la société. Comme tous les autres promoteurs, La Réunion a dû faire face à des évolutions négatives des travaux, dont nous-mêmes et nos concurrents avons également été victimes. Donc en gros, on a à peu près compensé ces évolutions défavorables des coûts de travaux et puis cette tension maintenue sur les coûts du foncier. En revanche, comme pour les nouveaux constructeurs, il y a eu une baisse très très sensible de la dette nette, qui vient du fait qu'il y avait une gestion quasi inexistante du besoin de fonctionnement de la société à l'époque où elle était détenue par une institution bancaire hollandaise. Cette institution n'avait aucun problème à délivrer des capitaux sans poser de questions, je dirais, à la société. Donc en faisant un petit peu plus attention aux écoulements, à la constitution de réserves foncières, aux encaissements clients et autres, eh bien, il y a eu une amélioration très rapide du BFR qui a déjà contribué une bonne part à l'amortissement du l'amortissement, plutôt à la réalisation du prix de la société. Donc ça, c'est une chose dont on est tout à fait content. Et par ailleurs, Paul Antoine, pour en dire un mot, on a choisi la méthode la plus prudente pour la figuration comptable de Marignan, et qui évidemment a des impacts négatifs sur nos résultats financiers pour l'année 2018 et 2019. Mais c'est ce qui me semblait le plus conservateur, et de bien sûr à refléter le mieux possible la réalité économique en étant prudent. Paul Antoine, tu veux en dire un mot?
Je reparlerai tout à l'heure avec les comptes sur le à l'origine de la performance de Marignan et puis la façon dont ça arrive chez Batac.
Parfait. Très bien. Et dernière page pour ce qui me concerne. Après, je passerai la parole à Fabrice. Donc, évidemment, la page 10 que vous attendez sans doute tous avec impatience sont les impacts de la pandémie sur notre activité ou nos activités. D'abord, dans toutes les géographies où on est présent, la population est confinée ou quasi confinée, puisque évidemment la population est confinée en Espagne et en Allemagne, en Espagne, pardon, en France. Elle ne l'est pas strictement en Bavière, puisque les commerces sont ouverts et il y a une certaine liberté de circulation, mais avec une très forte baisse de la circulation et une très forte attention de la part des Bavarois sur le fait de respecter les consignes. Mais le confinement est moins drastique, je dirais, en Bavière. Et d'ailleurs, pour l'instant, nos chantiers continuent à un rythme un petit peu ralenti, mais néanmoins, les chantiers continuent en Bavière. Et on a une trentaine de livraisons en cours dans un programme à Gamering, qui auront cours, notamment dans les prochaines semaines. Alors, en premier lieu, l'impact sur l'activité commerciale. Vous pouvez l'imaginer en tant que citoyen, c'est pas un contexte dans lequel les gens ont plus de mal à se projeter à l'avenir. Donc, il y a un certain attentisme et une certaine inquiétude qui n'est pas de nature à encourager les gens à acheter des appartements de la matin. On a réussi à faire quelques ventes à distance, notamment Fabrice pourra en dire un mot. Je crois 29 programmes qui s'y prêtent, la totalité de nos programmes de commercialisation ne s'y prête pas encore, puisqu'il doit installer un logiciel spécifique pour pouvoir le faire. On a des études notariales qui ne peuvent pas pour l'instant réitérer les ventes. J'ai eu une directrice juridique hier au téléphone. Pour des raisons juridiques, il n'y a pas de réitération des ventes à distance. Il faut que le notaire puisse avoir une personne en face de lui pour reconnaître son identité. Et puis plus généralement, on a une baisse de contact que Fabrice montrera, et qui est liée évidemment à une certaine psychose dans la population. Vous l'avez lu, la plupart des chantiers, 90% des chantiers en France se sont arrêtés au début de la crise. Il y a maintenant des discussions très avancées avec les sur votre aile, cette fois-là, il est bien. Et là aussi, si on veut dire un mot, il s'agit de faire intervenir des centaines de parties prenantes pour que les chantiers repartent. Et puis par ailleurs, si jamais les mesures de financement de l'économie du gouvernement n'étaient pas totalement efficaces, évidemment, on a un risque que les sites de construction ne soient pas en pleine forme après ou pendant la crise. Pendant cette période, vous pouvez l'imaginer, on a notre avancement de chantier, avancement technique, qui est en très très fort ralentissement, voire 0% pour ce qui est de la France. Et donc mécaniquement, on ne reconnaît pas de chiffre d'affaires si jamais il n'y a pas d'avancement technique. Donc ça veut dire que pendant cette période de glaciation, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Alors l'avantage de notre métier, c'est que l'essentiel de nos coûts sont variables. Les coûts de nos coûts, ce sont les coûts de construction, les coûts de foncier et les coûts de et les honoraires du prestataire extérieur, qui évidemment s'arrêtent lorsque le chantier s'arrête. Les seuls coûts que nous subissons pendant cette période de glaciation, mais c'est déjà pas mal, sont nos salariés. Et évidemment, dans cette période, l'hypothèse qu'on a prise, c'est plutôt que on aurait à décaisser pour nos fournisseurs et qu'on n'aurait pas beaucoup d'encaissements pour nos clients. Ça risque pour le commenter aussi. Pour l'instant, on encaisse un peu de la part de nos clients, mais c'est sûr que ça a un impact de augmenter légèrement notre BFR pendant cette période à nouveau de glaciation. Évidemment, comme n'importe quel métier en France, on a pris des mesures de sécurité, même en anticipant sur ce qui était demandé par le gouvernement. On a pris des mesures de sécurité pour nos collaborateurs et pour nos partenaires de construction dès qu'on en a. Et puis enfin, un point très important pour vous tous, on a fini l'année dernière, avec 115 millions d'euros de trésorerie. Et on a fini l'année dernière liée aux mécaniques de baisse de dette de des prix avec 220 millions d'euros de trésorerie plus une ligne de donc, et donc ça nous donne une très forte visibilité. Alors, je crois, comme je vous l'ai dit, en période de gel, finalement les seuls déclenchements qu'on aura, ce seront nos frais généraux, et avec 220 millions de trésorerie plus un fonds d'intérêt, j'espère pas vraiment passera pour la France, mais on peut venir des périodes armées très très chères. Donc ça n'est évidemment pas notre scénario central, mais néanmoins ça nous donne une visibilité totale. Voilà pour ma part, et évidemment je reprendrai la parole un peu plus tard. Je laisse maintenant la parole à Fabrice sur cette très très belle image du Prado pour commenter notre activité française.
Bonjour à tous. Une personne qui souffle un petit peu qui reste en vigilant parce que ça gêne à mon avis la compréhension de ce que dit. Donc ça c'est la première chose. Juste une petite précision pour rester avant de passer au Prado et à l'activité sur les conséquences de la pandémie. Et pour préciser ce que vient de dire Moïse, en ce qui concerne le commercial, nos bureaux de vente ont été fermés donc le samedi, donc précisément le dimanche 15 mars ce matin. Donc on a fait une décision assez rapide de fermer nos bureaux de vente, tout en maintenant une force de vente basée à domicile en télétravail, c'est-à-dire la vente debout en particulier, la vente prescripteur et également l'encadrement commercial, qui permet de garder le contact avec nos clients, de traiter les contacts même sur les pays de baisse, et puis de suivre les appels de fonds, de gérer aussi des sujets de fonds pour la reprise ultérieure. De façon concrète, aujourd'hui, on a 20% de la force de vente qui est maintenue. Voilà. Et effectivement, on avait juste avant la crise de la pandémie mis en place un projet de dématérialisation des contrats de réservation en interne. Le projet qui à l'époque nous était à 5 contrats de réservation, donc on a renforcé de façon très rapide ce projet. 5 programmes. Et donc avec l'idée d'être d'ici ce jeudi à 29 programmes en Île-de-France et ensuite 5 programmes par jour en province. Et de façon concrète, les contacts, pour vous donner une idée, on était en semaine 11 à 1855 contacts, en semaine 12 à 1322, donc ils n'ont pas tant baissé que ça, une baisse de 30%. Par contre, effectivement, les rendez-vous ont chuté et les réservations également. Elles ont chuté, mais pour la première semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, donc on ne sont pas mieux puisqu'on a fait 18 réservations comparé à 56 la semaine précédente, la semaine 11, juste avant la pandémie. Voilà, donc on suit également avec attention les désistements. Là, pour l'instant, on est à 13 désistements sur la semaine 12, mais on a pas mal de clients qui effectivement, posent des questions. Ça, c'est pour la vente. Pour la production, pour compléter ce que vient de dire Moïse, donc c'est vrai qu'après avoir une période de manque de clarté, de consignes peut-être assez imprécises ou voire contradictoires des pouvoirs publics, on a décidé là aussi d'arrêter nos chantiers lundi 16, sauf exception, sauf exception de l'entreprise. Donc on avait une position qui était pragmatique, c'était lié au fait qu'il n'y avait plus de SPF, plus de maître d'œuvre, plus de personnes, plus d'entreprises présentes. Les matériaux n'étaient pas alimentés, la volonté de maintenir aussi de sécuriser les collaborateurs et nos partenaires. Donc là aujourd'hui, on est en attente de consignes de définition plus claires, des consignes définitives et des définitions plus claires du gouvernement qu'on devrait avoir d'ici aujourd'hui ou demain pour fixer les conditions d'une reprise avec des conditions sanitaires satisfaisantes. Sachant que ce sera très, 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 très compliqué, visiblement. Hein. Mais bon, on suivra les consignes, tout en sachant que ça risque d'être long. Sachant que dès hier, là aussi, on a essayé d'anticiper les demandes avec les courriers à nos entreprises, leur demandant de transmettre leur TPSPS, les avis sur SPS, les mesures à prendre au niveau de TGC, etc., pour rattraper quantement. Donc, on essaie de mettre déjà les entreprises... en marche pour se préparer, mais ça va être assez compliqué. Et pour compléter ce que disait Moïse concernant la trésorerie qu'on traitera probablement Paul Antoine, on a mené effectivement deux actions très très rapides dès lundi, c'était de relancer les appels de fonds envoyés mais non payés, donc les appels de fonds qui étaient en cours ou en retard, notamment en identifiant les gros appels de fonds auprès des bailleurs. Et on a réussi, et en appelant individuellement chaque client de façon avec tact, parce qu'en tout temps on a essayé. Donc là, on a fixé des listes pour pouvoir récupérer 1 à 2 millions par jour ces derniers jours. Et puis on a également fait des attestations in fine, on a raté les fonds de soir, des attestations qui n'étaient pas encore réalisées juste avant le déclenchement de la file de fonds. Je donne un exemple, à Bussy-Saint-Georges, par exemple, le bâtiment qui avait un appel de fonds de 2,4 millions, voilà. Donc, on a vraiment été au maximum de ce qu'on pouvait faire. En ce qui concerne les sujets des appels de fonds. Alors, un mot pour terminer, peut-être le plus important, même si c'est le fort niveau d'engagement des collaborateurs nouveaux constructeurs dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a une communication exceptionnelle et incroyable entre tous les collaborateurs et tous les jours, non seulement des groupes WhatsApp, non seulement des communications en one-to-one, etc., mais également des objectifs qui sont fixés aux uns et aux autres par les différents chefs de service. Et donc avec également un impact, une forte mobilisation du service du siège, trésorerie, comptabilité, juridique, ressources humaines, et puis également des équipes opérationnelles. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable, et on essaie de continuer à communiquer également, nous, avec eux, tous les jours. Voilà, alors, ce que je vous propose, mon ordinateur, pendant que je parlais, je vais toujours mettre mon code, je vais passer, voilà, désolé. Donc je passe à l'activité, même si peut-être elle est vite. Donc l'activité, même si ça s'est un peu réchauffé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, donc signature en 2019 de 3693 réservations, donc une progression de novembre de 2%, mais par les 9% c'était Batac, les nouveaux constructeurs ont progressé donc de 2% par rapport à 2018. Hausse qui se concentre sur les ventes au détail, hein, donc c'est positif, puisque la hausse de 2% elle s'est décomposée à 6-5% en détail et moins 10% en vente en bloc avec un volume moins grand. Donc cette augmentation des ventes de 2% des nouveaux constructeurs, elle se compare par rapport à une baisse des ventes du marché de 3,3%. Et comme vous le savez, la baisse des ventes du marché, elle est liée à une baisse des mises en vente de 14% sur le marché et donc de là, la vente, une conséquence de la forte baisse de délivrance des permis de construire avant les élections municipales, qui a priori était de moins de 22% sur deux ans. Donc, concernant l'offre pour les nouveaux constructeurs, après avoir une progression en 2018, on était sur une progression continue ces dernières années, on a eu un point haut tout début 2019, l'année 2019 a été marquée par un repli de l'offre commerciale, un repli de 25% de l'offre même, à fin décembre 2019. Fin décembre 2019 par rapport à fin décembre 2018, un repli de l'offre de 25%, qui s'explique par la baisse des mises en vente dans le courant de l'année 2019. Pour vous donner un chiffre, on a fait 36 mises en vente en 2019 pour 63 en 2018. Donc très forte baisse des mises en vente. On voit à l'écran un programme, le programme de Saint-Ouen-le-Maune, qui illustre les mises en vente reportées ou annulées. Dans ce cas précis, c'est assez incroyable, puisque c'est une consultation municipale qui a été gagnée et qui a fait l'objet, au courant de l'année, d'un retour en arrière de la ville, puis pour finalement renoncer complètement au projet. Voilà, donc une année marquée par la baisse des mises en vente et de l'offre en fin d'année, mais qui est marquée également par une demande qui reste à un niveau élevé, comme le reste du marché, avec des rythmes d'écoulement stables, même si les dynamiques de marché sont différentes selon les régions. On avait une progression des ventes en Ile-de-France de 18%, une baisse des ventes en région de 25%. Parce que, une augmentation moyenne de 2% parce que l'Ile-de-France pèse plus. Voilà, donc augmentation qui est néanmoins variable selon la région. Voilà, donc néanmoins bonne performance commerciale en moyenne. Ça a été réalisé avec 143 programmes. 143 programmes, je listais là les 5 programmes qui ont généré plus de réservations pour vous donner une petite idée concrète. Justy, 99 réservations, Gare de Gonesse, 67, Vers-sur-Marne, 67, Tarsis, 64, Sérif, 59. Donc vous voyez, c'était pour vous donner une idée sur les 143 programmes, des programmes qui ont généré plus de ventes, et tous ces programmes se situent comme par hasard d'ailleurs en Ile-de-France. Et pas forcément par contre dans les communes les plus huppées, on voit Gare, Tarsis ou même Vers, en primo-accession. Ce qui permet d'ailleurs de faire le lien avec la page suivante, qui est la page 13, répartition des ventes au détail et utilisateurs et investisseurs. On voit ici d'ailleurs l'exemple de Pierrefitte, dont je viens de vous parler, qui est avec 99 ventes en résidence principale. Donc cet exemple de Pierrefitte, dont on a posé la première pierre récemment, ça illustre la proportion soutenue d'acquéreurs utilisateurs en résidence principale, de façon plus générale, avec une progression de 12%. Alors qu'au contraire, on a une petite baisse des ventes investisseurs. On est à 35% d'investisseurs, assez inférieur à la part de vente du marché, qui est de 49% sur 2019, qu'on raisonne sur l'ensemble du marché, lié à notre mode de distribution qui est tourné en grande majorité vers la vente en bureau de vente. D'ailleurs, cet exemple de Pierrefitte, ça illustre aussi la difficulté à sortir des affaires. Donc, je parlais des 36 mises en vente versus 60 et quelques. Pour ceux qui connaissent la National 1, c'est l'ancien site de Darty, et qui était horriblement long à sortir, puisqu'on a signé ce programme en 2014. C'était très compliqué de remembrer, ensuite d'évincer le locataire, ensuite on a eu un refus de permis de construire, un refus de préfecture des agréments, ensuite on a eu des recours, bref, on en parlait dans la pause de préfecture, une grosse ténacité de différentes équipes pour arriver à sortir, c'est ce programme qui, au final, va être très profitable. Voilà, on peut passer à la page suivante, qui est la page 14, donc avec l'activité développement. Donc là, dans un contexte préélectoral qui a été vraiment très 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 pénalisant pour obtenir le permis de construire, on a une liste très longue de permis de construire refusés, donc parfois difficile à obtenir, parfois obtenu avec des fortes baisses de densité, mais aussi le refus de permis de construire. Je vous donne des exemples, Morsan-sur-Orge, Morsan, Chaville, Maison-Alfort, Champigny, Saint-Ouen-le-Mont, dont je vous ai parlé, Bussy, Minas, etc., etc. Donc beaucoup de permis de construire refusés ou avec constructibilité restreinte également. Et donc, pour faire face à cette situation, on a intensifié encore davantage nos efforts en développement. Et ça a porté ses fruits, puisqu'on a signé en 2019 une belle année aussi en développement avec 7790 logements signés en brut. Donc 7790 logements, c'est une augmentation de 38% en brut. Et 5231 logements en net, une augmentation de 59%. Donc cette activité soutenue en développement avec des niveaux de marge qui est néanmoins plus serré, nous permet d'avoir un portefeuille foncier de 17 700 logements, donc un beau portefeuille foncier pour les prochaines années. Et là, on voit le programme à l'écran divisé, c'est un beau programme, une belle mètre foncière finie en 2019, 269 équivalents logements. Et là aussi, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un programme qui a été signé en ZAC avec l'accord de l'aménageur avec qui on a signé et qui l'a ville. Et bien, même sur ce programme, alors qu'on s'apprêtait à déposer le permis, l'aménageur nous a fait savoir qu'un nouvel urbanisme a été désigné et le projet qui devait être lancé a été reporté. Donc, même en ZAC, c'est compliqué.
Voilà pour... voilà. Alors donc, voilà, les tendances du marché... les tendances du marché...
Alors là, on peut dire que c'est une nouvelle donne, donc jusqu'à cette nouvelle donne, la demande restait soutenue, même si on constatait une petite baisse de rythme au début d'année, mais qui n'était pas inquiétante, qui était plutôt liée au fait que notre offre avait baissé, qu'on était plus restrictif et qu'on était plus exigeant encore. Voilà, la suffisance de l'offre commerciale en France a encore exercé une tension sur les prix de vente, qui ont augmenté de 5% en 2019 et 6,5% en 2019, donc ça continue à augmenter. Sur certains programmes, les prix sont au taquet, et d'ailleurs ça bloque sur certains programmes, même si nous, on n'a pas de programme à l'arrêt, tous les programmes nouveaux constructeurs fonctionnent. Donc on voit que c'est... Et d'ailleurs, comme vous savez, la Banque de France a récemment fixé début février de nouvelles contraintes, en particulier le taux d'endettement, à ne pas dépasser, y compris assurance, c'est un de 33% y compris assurance, et ces contraintes ont un impact significatif sur la solvabilité des ménages qu'on a calculé en moyenne à 12 000 euros par logement, avec le même salaire, le client achète un bien d'une valeur inférieure de 12 000 euros en gros. Donc un peu plus compliqué, avec des prix qui augmentent, et donc et une solvabilité qui, elle, se restreint, mais néanmoins toujours une très très forte attente. Donc ça, de toute façon, avec ce qui se passe aujourd'hui, on va s'adapter à la future reprise. Voilà. Concernant l'immobilier entreprise, je sais pas, Maurice, tu veux poursuivre sur l'immobilier entreprise? Allô?
Oui, excuse-moi, Fabrice, je m'étais mis en mute.
Ah d'accord.
Oui, je vais prendre le relais. Donc l'immobilier entreprise, alors c'est pas complètement logique que je prenne le relais, c'est vraiment pas bon, puisque maintenant, Fabrice est vraiment... Ben alors vas-y, tu le dis.
Donc l'immobilier entreprise, ben alors l'immobilier entreprise, on a été assez prudent ces dernières années. Donc c'est vrai qu'avec une faible proportion de notre activité en une entreprise, notre chiffre d'affaires en immobilier entreprise, c'est 2019, qui était 23 millions, qui représente moins de 4% du chiffre d'affaires à l'immobilier secteur. Mais on a néanmoins un certain nombre de projets à venir à différents stades d'avancement, que vous voyez sur la slide numéro 15. Donc le Christine à Champs-sur-Marne, on vient de livrer à l'URSSAF, 8 mètres carrés. La deuxième tranche du Christine, 4400 mètres carrés dans les travaux sont lancés en juillet, était réservée pour le futur siège de l'État-Marne. Et puis plusieurs projets en cours de travaux. Bordeaux, dont on avait déjà parlé, de côté de la Paris, le programme Jazz HEC. On avait signé dans le cadre d'un accord global avec les 330 logements de série dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont installés très bien. Les bureaux, ce qu'on a fait d'ailleurs au détail, correctement également, finalement. Voilà, et puis plusieurs projets aussi en développement pour un potentiel important, 325 millions d'euros dans les projets sites maîtrisés, donc projet à Champs-sur-Marne, 25 000 mètres carrés. 25 000 mètres carrés à Champs-sur-Marne dont le PC est obtenu, et on a des contacts preneurs en cours. Et puis également un bon projet au Aubervilliers, là il n'y a pas la surface, mais c'est 33 000 mètres carrés, là aussi PC, la première tranche du PC est obtenue. Le projet de Brunzo dont Moïse a parlé, et puis également le projet d'Ivry, que j'ai montré tout à l'heure, et qui est en logement, mais également en partie en bureau, avec un investisseur identifié. Voilà, donc une activité immobilière entreprise assez restreinte, mais néanmoins avec un portefeuille en croissance et puis des perspectives déjà identifiées pour la suite. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Moïse pour l'Allemagne Concept Bau.
Une information anecdotique en immobilier entreprise, pardon, mais qui paraît intéressante, c'est qu'on les comptes, les une transaction toute récente qui a eu lieu non pas par les nouveaux constructeurs, mais par un véhicule d'investissement qui est tout proche de nous, et qui a eu lieu, évidemment, post-problématique de la pandémie du coronavirus. Et l'investisseur qui est un mutualiste ayant collecté massivement, comme vous en connaissez tous quelques-uns, a maintenu sa signature et dans des conditions de taux très compressés et avec une rémunération sans modifier ni la rémunération ni la négociation des conditions techniques. Donc un assez bon signe sur le fait que dans le contexte où des fonds très importants ont été levés, la nécessité de les mettre au travail dans des opérations d'une entreprise devrait se maintenir. On dit tout au conditionnel, mais néanmoins, encore une fois, vraiment en plein cœur de la pandémie, ils ont décidé de maintenir leur signature, et le notaire a bien voulu l'organiser, alors que les mesures de confinement avaient déjà été ordonnées. L'Allemagne, je vous ai donné quelques commentaires. Pardon. Je vous ai donné quelques commentaires généraux sur la Bavière, pardon, Munich. L'année a été très bonne en 2019, avec un marché qui se stabilise en prix depuis maintenant quelques semestres, mais néanmoins qui reste très tonique. On a eu vraiment des bons rythmes commerciaux, notamment dans les premières semaines de l'année 2020. On a quelques programmes en cours de commercialisation, un Wernering, Bodensee 2, Arnaud Strasse, et on a vraiment des niveaux de commercialisation qu'on trouve satisfaisants et des évolutions de prix qui sont encore tout à fait favorables. Ça, c'est très pandémie. Depuis le blocage de la Bavière, on a quand même un sentiment d'inquiétude de la part de nos clients qui est notable, avec pas mal de clients qui souhaitent plus se déplacer chez le notaire pour réitérer. Donc, ils n'ont pas désisté encore leur réservation, mais qui néanmoins, pour l'instant, attendent de voir et puis surtout renoncent au fait de se déplacer physiquement, alors que les signatures notariales sont encore autorisées en Allemagne. On maintient pour l'instant nos chantiers pareil en Allemagne, avec des rythmes ralentis, mais je vous l'ai dit, on maintient le chantier. Et on a à nouveau une très belle visibilité future, puisque même si on a acheté beaucoup moins de terrain récemment, on a encore pas mal de terrain en cours de développement ou en cours de travaux qui nous permettent d'avoir de l'activité pour les années à venir. Même si on va faire du développement, on ne va pas faire grand-chose pour le moment dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est pour l'activité Concept Bau. Pour DAPS, qui est évidemment un métier complètement différent, la préfabrication de garage, on a eu une baisse là aussi relativement sensible de nos contacts, peut-être de l'ordre de 30-40% chez DAPS. Pour l'instant, on a une baisse de vente à peu près du même ordre, mais en fait, qui reste relativement satisfaisante compte tenu de l'évolution du pays, notamment dans le nord ou le centre de l'Allemagne. C'est vraiment le sud qui est plus touché pour l'instant. Et évidemment, on aura, pour l'instant, nos usines continuent à tourner. On aura sans doute une situation, si jamais les choses continuent à être retirées, une situation de chômage partiel à solliciter pour toute une partie de nos collaborateurs Col Bleu, si jamais nos usines ne fonctionnent plus de la même manière, de façon à réduire nos frais de fonctionnement mensuels. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. On a pour l'instant des clients qui tournent et des clients qui sont livrés tant qu'ils acceptent la livraison. Donc, on continue à déplacer les garages et à livrer. Je passe à la page 17, l'Espagne. L'Espagne, de la même manière, commentaire général, là aussi j'ai eu le patron espagnol hier soir. Pour l'instant, les chantiers continuent, alors que le pays est en confinement et malheureusement des statistiques et l'évolution de la maladie qui sont franchement défavorables. Mais néanmoins, les chantiers ont continué en Espagne et nos équipes sont tout à fait courageuses, que ce soit en Espagne comme en Allemagne, pour continuer à les encadrer et à assurer cette activité économique importante. On a eu une activité 2019 tout à fait satisfaisante, avec néanmoins un peu moins de maîtrise foncière, vous verrez à la fin de la page 17, puisqu'on a fait que 5 maîtrises foncières l'an dernier comparé à 9 l'année précédente. Évidemment, on adapte notre politique de maîtrise foncière à l'attractivité des opportunités qu'on nous présente. Et donc, on a eu l'impression de voir un petit peu moins de choses des côtés l'année dernière, donc on a acheté un petit peu moins de terrain. On a néanmoins continué à analyser le maximum de dossiers pour être présent dans le marché, mais évidemment on ne se forcera pas à acheter des terrains si jamais les conditions ne paraissent pas totalement réunies. On a des frais généraux en Espagne ou à Munich qui sont vraiment très modérés. On parle de quelques centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, on n'a absolument aucune obligation de faire du maintien d'activité et de prendre des dossiers si jamais on n'a pas l'impression d'être très très bien rémunéré pour nos risques. Donc on verra, on adaptera la politique des maîtrises foncières espagnole ou allemande à l'évolution du marché qu'on va constater dans les prochains jours ou semaines. On a par exemple une consultation en cours juste au sud de Barcelone à l'Hospitalet, dans un marché qu'on connaît par cœur. On verra bien si jamais le tournant que prend le marché espagnol dans les prochaines semaines. Je vais maintenant passer la parole à Paul-Antoine pour nous présenter les principales pages de traitant de la performance financière.
Oui, bonjour à tous et toutes. Donc les performances financières 2019, commençons avec une vue sur le programme de séries dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est jumelé au programme d'immobilier d'entreprise de Cessy. Donc, les chiffres faits 2019, vous avez tous reçu le communiqué de résultats vendredi soir et le rapport financier annuel détaillé sera mis à disposition, si ce n'est en cette semaine, la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui souhaitent faire des analyses détaillées, vous aurez l'annexe, un rapport de gestion complet et naturellement, je serai à votre disposition pour tout éclaircissement utile. En 2019, bon, nous avons, ça a été évoqué tout à l'heure, nous avons une hausse de 134 millions du chiffre d'affaires, qui représente plus de 16%. La marge brute à 240 millions d'euros est en progression alors de 11 millions d'euros et seulement de 5%, puisque comme on le voit à l'écran, je suis page 19, nous avons un tassement du taux de marge brute moyen qui passe de 27,2% en 2018 à 24,6% cette année. Et si l'on regarde dans le détail, cette baisse du taux de marge brute est surtout visible en France, où la hausse des coûts de construction, des coûts des fonciers a été la plus notable ces dernières années. C'est en France également qu'elle arrive dans les comptes le plus vite, le plus tôt, avec le dégagement du résultat à l'avancement. Voilà, et en France, on perd à peu près 4 points de marge brute entre les deux années. C'est quelque chose qui était anticipé, qui est reflété dans les balances financières et qui tombe dans les comptes de manière normale. Le résultat opérationnel courant augmente de 3 millions d'euros et on voit que le taux de marge opérationnelle courante est aussi en légère dégradation, passant de 18,4% à 16,2%. C'est un taux moyen qui est un blend, un mix entre les filiales étrangères où les taux sont plus élevés et la France. Le résultat net part du groupe qui est relativement stable à 97,2 millions d'euros. Pour les agrégats bilanciels, nous avons une décroissance du besoin en fonds de roulement de 38 millions d'euros, qui est en baisse de 7%. Au cours de l'année 2019, un désendettement de 121 millions d'euros sur lequel nous reviendrons, étant précisé que fin 2018 était un point haut puisque nous avions effectué l'important décaissement lié à l'investissement dans Marignan un mois et demi plus tôt. Et les fonds propres consolidés continuent leur progression selon la trajectoire que vous avez pu voir tout à l'heure, passant de 445 millions à 501, c'est une progression qui est le fruit du résultat net de l'année, des distributions de dividendes annuels. En détail, la progression du chiffre d'affaires, même si c'est une, quelque chose que vous avez pu étudier dans, le, dans les communiqués. Voilà, le, sur cette hausse de, globale de 134 millions d'euros, le gros de la progression vient de la France, du segment résidentiel, où, la, où le chiffre d'affaires augmente de 80 millions en 2018 et 2019. C'est le résultat de cette longue... de cette période de croissance de l'activité commerciale, du carnet de commandes et puis de la production technique en cours. Donc plus 80 pour la France, plus 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en Espagne, avec un calendrier de livraison bien fourni cette année, puisque nous avons livré 480 logements contre 326 l'année d'avant. Et une progression, quoique moindre, à Munich et Concept Bau avec 135 livraisons effectuées. C'est toujours intéressant de voir que, quand on fait que le, si on fait leur, la division entre 94 millions de chiffre d'affaires et 135 logements, nous livrons des logements à très fort prix unitaire à Munich. C'est un, des prix unitaires qui sont de l'ordre de 700 000 euros, ce qui est nettement au-delà de l'Espagne ou de la France. C'est un mix un petit peu bizarre. Dans le, sur la page suivante 21, nous avons le détail géographique de la progression du résultat opérationnel courant. C'est pas une progression très importante, nous passons de 100, nous augmentons de 3 millions, passons de 154,7 à 157,8 millions, et nous voyons un petit peu les contrastes entre pays. Alors, nonobstant la progression de 80 millions du chiffre d'affaires que j'indiquais à l'instant, le résultat opérationnel courant de la France est en diminution de 7,5 millions d'euros entre les deux périodes, ce qui est lié à la baisse du taux de marge brute, du taux de marge opérationnelle courante qui provient lui-même de la baisse du taux de marge brute de 4 points que j'évoquais tout à l'heure. En Espagne, une progression du résultat opérationnel courant de 6,1 millions entre les deux périodes, qui a son origine dans la progression de l'assiette, la progression du chiffre d'affaires de 35 millions entre les deux périodes. Idem pour la progression en Allemagne, à Munich, où la hausse du chiffre d'affaires de 8 millions permet d'augmenter mécaniquement le résultat opérationnel courant de près de 3 millions, comme indiqué précédemment sur les pages consacrées à ces différentes implantations. Nous avons une rentabilité opérationnelle courante de 28% à Munich. Et pour ce qui est de la, et pour TAP, nous avons un résultat opérationnel stable entre les deux périodes qui est de l'ordre de 6 millions. La page suivante, page 22, nous donne le passage entre le résultat net par du groupe de 98,6 millions en 2018 à 97,2 en 2019. Là aussi avec des évolutions contrastées selon les types de produits de charges. Tout d'abord, la progression de 3,1 millions d'euros du résultat opérationnel courant que je viens de commenter à l'instant. Bon, le résultat, les produits et charges non courants sont conduisent à une diminution du résultat de moins 2,3 millions. Ceci est lié à des produits non courants en 2018 qui ne sont pas reconduits en 2019, ce qui est le propre des charges et des produits non courants, c'est de varier de manière non prévisible. Alors le sujet plus important, plus important et matériel dans ce compte de résultat 2019, les nouveaux constructeurs, la contribution de Marignan, la contribution indirecte de Marignan, puisque Bassac est actionnaire d'une société qui s'appelle Bayer Holding, laquelle, donc nous avons 60% de Bayer Holding et le fonds Hermon les 40 autres %, et c'est Bayer Holding à 100% de la société Marignan. Donc cette baisse de 10,2 millions du résultat entre les deux périodes provient principalement de, correspond à l'impact de la première année de consolidation de nos 60% de Bayer Holding, qui conduit à une perte de comptable de 11,2 millions d'euros cette année. Alors, il est important de, c'est expliqué dans le communiqué et encore plus dans l'annexe, mais pour faire le lien entre la situation de Marignan et puis cet impact dans les comptes, la contribution de le résultat net en 2019 de Marignan s'élève à plus 15 millions d'euros. Donc c'est un, comme Moïse l'indiquait tout à l'heure, bon, c'est une, par rapport aux 550 millions de chiffre d'affaires, c'est une performance opérationnelle et puis et un résultat net de peu élevé correspond à une performance moyenne qui doit être améliorée. Mais voilà, néanmoins, plus 15 millions d'euros. Alors, il faut revenir en arrière au moment de l'acquisition où Bayer Holding a décaissé un certain prix de vente qui lorsqu'il a été, lorsqu'on le compare au fonds propre qui existait à la date d'acquisition, a donné lieu à la constatation d'un écart d'acquisition d'une cinquantaine de millions d'euros. Et dans les pratiques comptables LMC/BASTAC, voilà, nous n'aimons pas les incorporels, les goodwill, les fonds de commerce, les choses un petit peu abstraites qu'on est. Et nous avons affecté la quasi-totalité de l'écart d'acquisition au stock, selon le raisonnement, ben voilà, que lorsqu'on achète société, on remet les stocks au prix de vente. Donc les stocks ont été réévalués dans le cadre de ce qu'on a en anglais, entre guillemets, on appelle le purchase accounting, excuse my French. Voilà, l'écart d'acquisition affecté en quasi-totalité au stock pour 53 millions. Et cet écart, cette réévaluation des stocks passe en résultat au fur et à mesure de l'avancement des chantiers des 10 stocks. Donc ça nous a conduit en 2019 à passer en charge 35 millions par rapport à ces 53 millions. Et c'est donc ce qui nous fait passer du plus 15 de résultat net de Marignan à peu près moins 20 millions en fait, dans la consolidation Bayer Holding. Et la quote-part, les 60% que nous avons dans ces moins 20 millions représentent ces moins 11. Voilà, c'est juste le fait que dans nos pratiques comptables, nous passons l'écart d'acquisition en charge très rapidement. Le résultat financier entre les deux exercices n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est que les principes comptables ont évolué, avec la IAS 23, qui s'applique plus en France, de sorte que voilà, les frais financiers cessent d'être activés, mais ça ne se... C'est pas le sujet principal. Et le dernier facteur d'évolution du résultat net entre 2018 et 2019, bon, la bonne nouvelle, c'est que nous avons une baisse de notre charge d'impôt sur les bénéfices de 7,9 millions d'euros, qui trouve sa source principale dans la baisse du taux effectif d'impôt, qui passe de 31,4% en 2018 à 27,8%. Cette année, et cette baisse du taux d'impôt, elle provient d'une part de la trajectoire du taux d'IS en France, où nous avons bénéficié du passage de 33,25% à 31%, et puis aussi d'une forte pondération de notre résultat dans les filiales espagnoles et allemandes, où le taux est plus bas qu'en France, il est à 25%, et donc ça tire le taux moyen vers le bas. Donc 97,2 millions d'euros de résultats nets par du haut, ce qui représente 6,06 euros par action. Le bilan synthétique que vous avez en page 23. Ça permet de visualiser, si je reviendrai sur certains aspects, le dégonflement du besoin en fonds de roulement qui baisse de 38 millions d'euros entre les deux périodes. Moins 7% pour le BFR, malgré la progression de 16% du chiffre d'affaires, la progression du résultat net, la progression du carnet de commandes, donc une amélioration du BFR relatif qui s'allège, mais qui reste un point élevé chez Batat, compte tenu en particulier du business model des filiales espagnoles et allemandes, où il est structurellement plus lourd. La progression des fonds propres passe de 445 millions à 501 millions d'euros entre les deux périodes, plus 56 millions, qui résulte de du profit 2019, moins la distribution faite en mai dernier, étant précisé que nous avons distribué 40% du résultat 2018. Et en conséquence de ces différents évolutions, la dette nette en diminution notable de 221 millions d'euros, passant de 210 à 89 millions d'euros entre les deux périodes. Nous avons en page 24 la décomposition, l'analyse géographique de cette baisse de la dette nette. On se rend compte que l'essentiel de la diminution de la dette nette, la diminution de 121 millions d'euros, s'observe en France, où on est passé d'une situation de moins 82 millions à plus 46, donc une progression de 128 millions d'euros de la situation de dette nette, plus précisément de trésorerie nette, fin 2019 en France. Donc plus 128 millions pour la France, et nous voyons que les deux filiales de promotion étrangère, l'Espagne et l'Allemagne, se compensent, puisque la dette nette progresse de 21 millions d'euros en Espagne. Alors, c'est lié à des encaissements qui n'interviennent qu'au premier trimestre 2020, mais bon, c'est une... Et l'Allemagne résidentielle, la filiale de Munich, a de manière presque... sa dette nette se réduit de 20 millions. Donc l'Espagne et l'Allemagne se contentent à peu près, et l'essentiel de la progression se s'observe en France. En page 25, nous avons le détail par type d'instruments de dette et une décomposition des différents facteurs derrière cette 221 millions de la dette nette. Le gros de la principale raison de cette diminution de la dette nette, c'est la progression de 104 millions de la trésorerie entre les deux périodes. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau de flux de trésorerie qui figure en dernière page du communiqué le résultat, nous avons une importante génération de trésorerie opérationnelle en 2019, avec une capacité d'autofinancement très élevée et une baisse du besoin en fonds de roulement qui vient la renforcer. L'endettement brut évolue dans une moindre mesure, évolue peu entre les deux dates de clôture. Il passe la dette brute diminue de 16 millions pour s'établir à 310 fin 2019. Nous avons une reventilation entre les différents types de crédits entre les deux périodes, qui est intéressant. Et bon, que beaucoup d'entre vous connaissent pour avoir travaillé activement sur la mise en place, alors petit 1 du crédit corporel syndiqué, qui a été mis en œuvre au cours de l'été 2019. C'est un crédit corporel qui représente un total de 275 millions d'euros en deux tranches, et dont 110 millions étaient tirés au 31 décembre 2019. Ce crédit corporel syndiqué a eu pour principal objectif de pouvoir procéder au refinancement de tous les crédits promoteurs qui existaient, qui étaient utilisés en France jusqu'alors, qui conduit à la diminution de la ligne autres crédits bancaires, qui représente donc les crédits d'opération, et dont la baisse d'encours de 110 millions correspond assez précisément à la hausse du crédit à la mise en place du crédit corporate. Le solde de ce type de financement, 185 millions d'euros à fin 2019, représente essentiellement les financements utilisés à l'étranger, puisque le crédit corporate syndiqué est quasi exclusif pour les opérations françaises. Nous avions un emprunt obligataire de 30 millions d'euros à EuroPNP d'une durée de 5 ans qui a été remboursé en décembre 2019, donc qui disparaît de notre tableau. Et nous avons une innovation comptable du FRS 16 qui nous conduit à constater dans les baisses financières les engagements au titre des contrats de location simple et qui conduit à constater 11 millions de dettes à ce titre, ce montant représentant principalement le contrat de location de notre siège à Boulogne. Voilà. Cette évolution de l'endettement net et de nos capitaux propres nous conduit à constater une amélioration des principaux ratios fin 2019 par rapport à fin 2018. Le gearing, la dette nette rapportée aux capitaux propres passe de 47,2% à 17,8%. Et le levier, l'endettement net rapporté à EBE, l'EBITDA, passe de 1,3 à 0,5 à fin 2019. C'est donc une situation d'endettement très, très conservatrice qui arrive à point nommé compte tenu de la période un peu difficile dans laquelle nous entrons. À la prochaine Assemblée Générale qui est convoquée qui sera convoqué le 15 mai prochain et qui se tiendra possiblement à huis clos, en tout cas en fonction de l'évolution de la pandémie et des différents aménagements législatifs en cours d'élaboration. Il sera proposé la distribution d'un dividende de 2,50 euros, stable par rapport à l'an dernier et encore l'année d'avant, et qui représente ce qui représente 41% de taux de distribution par rapport au résultat net par action que j'avais présenté tout à l'heure. Je vais repasser la parole à Moïse pour conclure cette présentation.
Merci Paul-Antoine. Donc Paul-Antoine a fini par les informations les plus importantes, qui sont la qualité de notre bilan et qui nous procure beaucoup de sérénité pour la période à venir. Je vous rappelle que ce bilan présente 500 millions d'euros de fonds propres consolidés. Et d'ailleurs, en écoutant les explications de Paul-Antoine sur l'incitation à la réalisation de stock de la carte d'acquisition de la participation au Marignan, si on faisait le même exercice sur les stocks qui sont à l'actif de Vassac, évidemment, nos fonds propres se montreraient augmentés de façon très sensible, puisque aujourd'hui, les stocks sont portés à leur coût de revient. Et donc évidemment, ils recèlent beaucoup de marge brute supplémentaire, que ce soit pour les terrains qui sont portés à Munich ou les stocks en cours en France. Voilà, donc 500 millions d'euros de fonds propres durs, une trésorerie abondante et qui pourrait augmenter en cas de tirage des crédits non tirés, enfin qu'elle a été en partie faite pour ceux qui participent à votre pool des crédits syndiqués, des équipes qui sont habituées à être agiles et à être très réactives avec notre culture familiale un peu particulière, et puis une expérience des crises passées, puisque Olivier Mitterrand participe à cet appel téléphonique. On a commencé par 1981, ensuite il y a eu la crise des années 90 qui a été particulièrement brutale, évidemment 2010-2009. Cette qualité de crise relative, je dirais, la fin du la fin du CDI en 2013, et la de Madame Duflo. Donc on a connu pas mal d'expériences qui nous ont bien secoué et qui nous ont pas empêché d'envisager l'avenir avec sérénité et toujours de ressortir fort de ces périodes de test. Et vous pouvez tout à fait être conscient sur le fait que le truc est régulière, continue à s'entendre bien, prend des décisions rationnelles et agit chaque jour pour préserver l'intégrité de la société. Après cette présentation un peu plus longue que ce qu'on aurait aimé, évidemment, on est ouvert à toutes les questions de l'école.
Bonjour, j'ai juste une petite question concernant les lignes de Montirel. Je voulais juste avoir un rappel sur le montant.
Valentin, tu veux répondre ?
À ce jour, nous utilisons 120 millions sur la première tranche dédiée à la promotion immobilière France et qui s'élève à 175 millions. Donc nous avons 55 millions non tirés sur cette première tranche.
Merci.
Oui, allô ? Oui, concernant les sous-traitants. Allô ? Vous m'entendez?
Oui, très bien.
Les sous-traitants, quelle est votre mesure d'accompagnement? Parce que, étant donné que tous les chantiers sont arrêtés, j'imagine que c'est un sujet sensible.
Fabrice, tu veux dire un mot?
Oui, les sous-traitants, notre position déjà, c'est de respecter et de payer les sous-traitants qui ont fait les travaux. Aujourd'hui, on est en train de régler les travaux en mars. On vient de terminer l'échéance de mars qui correspond aux travaux de janvier.
Oui.
Et on a prévu de régler également les travaux de février en avril en totalité. Donc d'être très respectueux des sous-traitants et des entreprises. C'est ce qui a été prévu, voilà. Donc après, tout dépendra de l'évolution de la reprise des chantiers. Donc après le mois d'avril, il va y avoir en moyenne, les dépenses de la société sont de l'ordre entreprise, frais généraux et salaires de 40 millions par mois en période pleine. Donc là, on est encore en période pleine. À partir du mois de mai, on va retomber à des dépenses qui seront nettement inférieures, de l'ordre entre 0 et 5 millions. Mais là, nous sommes les frais fixes.
Sachant que Fabrice, les 35 à 40, il faudrait soustraire les encaissements clients, évidemment, parce qu'en période normale,
bien sûr,
comme vous l'avez vu sur le deuxième semestre.
C'est brut, hein.
Des encaissements clients. Et pour l'instant, on s'attendait avec Fabrice à plutôt un arrêt des encaissements clients après le confinement. Et on a plutôt été agréablement surpris quant au fait qu'on a continué à recevoir des encaissements clients, que les gens peuvent le faire à distance. Et quand les avancements sont vus, les gens continuent à les honorer. Donc on a encore des encaissements.
Oui, vous disiez, 40 millions par mois de dépenses, ça comprend donc les sous-traitants,
les entreprises, les sous-traitants, les salaires et les charges fixes. Et les frais fixes.
Karine Delas, j'ai une question. Allô? Oui, un de vos confrères a évoqué auprès de nous hier soir qu'il craignait un peu un recours massif des entreprises qui reprenaient avec des cautions marché qui demanderaient un peu systématiquement, en tout cas c'est ce qui leur a été conseillé. Je ne sais pas, vous avez eu cette information aussi ou pas?
Non, pas encore.
Ça pourrait être problématique s'il y a des cautions à délivrer sur chaque...
Pas encore.
D'accord.
Pas encore, mais en fait, les entreprises avec lesquelles nous travaillons voient qu'on les règle. Donc, pour l'instant,
oui, c'est
encore...
D'accord. Mais voilà, c'était une réflexion au-delà de la qualité du promoteur. Hein. C'était un
peu
arbitraire. Voilà, merci.
Et juste sur le financement, vous avez dit tout à l'heure 120 millions tirés sur les 175, parce qu'il y a deux tranches, vous avez dit tout à l'heure. La deuxième tranche, elle est de combien?
Elle est 100 millions.
D'accord. Celle-là, elle n'est pas du tout tirée.
Non. Elle a un autre objet que la promotion immobilière France.
Excusez-moi, Anne Goubert. Je voulais vous demander par rapport à l'activité au 31 décembre, le niveau des stocks, en fait, se trouve à quel niveau, représente combien de lots? Le stock dur.
Alors, je vous réponds très clairement. Je recherche le document. En France, 33 logements à l'étranger, si on est en rapport avec les 16 logements au total, France plus étranger, hors Réunion, 49 logements.
Et donc,
ouais. Donc, qui représente sur une offre de 2437 logements, 2%.
Et le chiffre d'affaires en France acté, ça représente combien de lots?
Les signatures, vous voulez les signatures notaires de l'année 2019?
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous voulez donner, si vous voulez? En France, c'est 3000, en signature notaire, c'est 3380 logements. Allô?
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, bonjour. Alors, excusez-moi, j'ai plusieurs petites questions.
Qui est à l'appareil?
Alors, notamment sur Marignan, donc c'est une opération. Alors, aujourd'hui, je comprends que vous gardez deux entités séparées. Et à l'avenir, est-ce que vous comptez vraiment garder ce système dual ou après changer un petit peu les gammes ou essayer de pas...
Non, les sociétés sont séparées et concurrentes.
Et ça restera?
Oui.
D'accord. Ensuite, sur les stocks, comparé à vos petits copains de côté qu'on connaît, vous avez des stocks très importants parce que vous avez une grande maîtrise foncière, etc. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise, a priori, vous avez plutôt l'air de dire qu'il est en train de baisser parce qu'il y a une difficulté à maîtriser du foncier à bon prix. C'est un trend, vous voyez ça comme une tendance?
En fait, il faut bien comprendre que le modèle d'affaires en Allemagne et en Espagne est différent de celui de la France, où en France, on fait du juste à temps foncier, alors qu'en Allemagne et en Espagne, les terrains sont l'objet d'une acquisition avant même le début des travaux ou la commercialisation. Et donc, structurellement, vous avez un BFR qui est plus important dans cette géographie. Si vous prenez l'activité France récemment, ce sera possible de le faire dans un parcours annuel. Par exemple, si je ne me trompe pas, vous avez un niveau de BFR qui est comparable au reste de la profession.
D'accord. Donc, vous êtes sur les 50 jours ou des choses comme ça, quoi.
C'est un peu plus élevé que ça quand même. Le Kaufmann est très faible. On compte pas en DSO en jour, mais on pourrait parfaitement le faire, mais en fonction de la chiffre d'affaires, disons que la profession est autour de 25-30% dans ce niveau-là.
D'accord. Ok. Et ensuite, juste sur Marignan, donc vous avez parlé notamment que vous avez fait des efforts, vous avez un plan implémenté des best practices pour améliorer la marge. Malheureusement, bon, le coût des travaux et le foncier ont impacté la marge. À terme, vous pensez que c'est une activité qui sera toujours comparable avec ce que sait faire les nouveaux constructeurs en deçà, ou est-ce qu'il n'y a aucune raison? Comme vous le dites, si vous êtes concurrent, normalement vous avez le même business model. Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'on peut s'amuser à réinvester d'un niveau de marge en ligne avec celui d'une constructeur?
Bon. La marge d'une société de promotion, c'est une alchimie particulière entre des équipes qui travaillent nerveusement ensemble et qui se connaissent intimement depuis des décennies. Donc c'est pas facile à répliquer. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel particulier dans ce métier. C'est pas comme si on vendait des sacs d'Hertin plus chers que d'autres marques. Mais en revanche, il y a un avantage compétitif dans la culture qu'on a réussi à constituer chez les nouveaux constructeurs après des décennies d'existence. Donc on peut pas faire des copier-coller. Si les copier-coller étaient si simples, je pense qu'on serait pas les seuls à faire la performance opérationnelle qu'on fait. Les seuls, ou parmi les seuls, on n'est pas les seuls à avoir ces niveaux de rentabilité opérationnelle, mais on est parmi les seuls. Et donc c'est évidemment un exercice auquel on aspire, mais ce sera ni immédiat, ni évident, ni certain. Et par ailleurs, la marge opérationnelle de, de l'activité de promotion d'LMC, elle a été particulièrement élevée dans les années récentes, même si elle est moins volatile que les géographies allemandes et espagnoles. Néanmoins, elle a vocation à se normaliser parce que le capitalisme fait son œuvre. On se retrouve avec plus de concurrence pour acheter les travaux, plus de concurrence pour acheter les fonciers. Et donc, on n'est pas non plus des enchanteurs. Si jamais les coûts reviennent sont plus chers, on a des marges plus faibles. Donc, on essaiera structurellement d'avoir des marges plus élevées que la protection, parce que c'est une bonne protection pour les crises de ce type-là. Mais ça n'est pas un commerce.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour, Jérémy. J'avais quelques questions. Une première sur Bayard Holding Marignan. Est-ce que vous pouvez nous donner le niveau de dette nette de la société? Et après, pour comprendre exactement, c'est un problème de marge brute ou un problème de coût opérationnel aujourd'hui qui explique la faible rentabilité de l'activité? Et après, une deuxième question sur l'impact de la crise actuelle. Est-ce que vous vous attendez à des baisses de certains coûts, notamment les coûts de construction? Et à quelle vitesse vous allez ajuster votre offre? Vous avez notamment parlé d'une baisse du pouvoir d'achat des clients finaux de l'ordre de 12 000 euros. Quelles sont les mesures que vous mettez en place pour ajuster votre offre à la demande?
Alors, pour l'entraide, tu peux commencer peut-être par la dette nette de Marignan?
Oui, alors là je vais vous donner les chiffres au niveau de la société Marignan, puisque Bayard Holding a des dettes auprès de ses associés, donc c'est des dettes internes, mais au 31 décembre 2019, j'ai sous les yeux le certificat de ratio financier pour le refinancement de Marignan. La dette nette consolidée de cette entité était de 75 millions d'euros.
Quant à la différence de rentabilité, alors d'abord, la rentabilité de Marignan, elle est pas radicalement différente de la profession, elle est peut-être un petit peu inférieure, mais c'est pas radicalement différent. Si vous prenez les chiffres qui sont publiés par Innova Press, qui sont des chiffres déclaratifs, et vous prenez la moyenne de la profession, c'est pas et c'est les deux mots généraux, c'est à la fois marge brute et frais généraux fonctionnement. Donc les deux, par définition, pour avoir une performance de très très bonne qualité, il faut être, il faut pas choisir la dimension sur laquelle on est bon, il faut être bon sur toutes les dimensions.
Sur la marge brute, elle est de quel ordre? Et est-ce que les nouveaux projets que vous avez lancés, ils ont des marges brutes déjà plus importantes?
Paul-Antoine, je ne crois pas qu'on communique sur la marge brute de Marignan, donc je ne voudrais pas non plus donner d'informations lors de cet appel qui soit pas disponible à l'ensemble du public.
Ça sera visible dans le rapport financier annuel, puisque dans l'annexe, on donne une page avec les états de la sous-consolidation Bayard Holding et puis les retraitements entre la performance de Marignan et celle de Bayard Holding. Donc
ce sera pour les amateurs de lecture comptable.
D'accord.
Mais vous pourrez identifier cette information. Mais alors, la marge brute de la société n'est pas, à nouveau, pas très différente de la marge brute moyenne de la profession. Les nouveaux programmes lancés, on ne peut pas dire que les marges brutes sont en amélioration en ce moment, parce que les nouveaux programmes lancés, il y a eu quelques évolutions de la société Marignan, mais à nouveau, c'est pas un coup de baguette magique et tout d'un coup, vous arrivez à faire des miracles. Les programmes étaient déjà maîtrisés et initiés dans certaines conditions, et puis par ailleurs, à nouveau, ils sont tributaires comme nous, comme Kaufmann, comme Lexistic ou que Cogedim, de l'évolution défavorable des coûts de travaux qu'on a connus dans les années semestres récents. Et donc, même si vous montez un tout petit peu différemment un projet, à partir du moment où vous allez avoir du mal à rentrer dans vos budgets de travaux, ça va être quand même difficile d'améliorer sensiblement la marge de vie. Quant à votre question sur l'évolution des coûts de travaux, c'est peu probable, pour le dire comme ça, c'est peu probable que la crise actuelle ait un impact inflationniste sur les travaux. Si vous avez à parier, je dirais que c'est plutôt un impact de stabilité des marchés de travaux ou de légère baisse. mais on, évidemment, on n'est pas en train de faire des appels d'offres dans tous les sens, pas encore. Ce qu'on sait, c'est que, et je parle sous le contrôle de Fabrice, c'est que dans les mois récents, l'inflation des travaux s'était quand même franchement apaisée. Et quand je vous en parlais, parce que je les crois toujours, parce que je suis toujours votre président, quand j'en parlais avec les gens qui font les appels d'offres chez nous, il y avait quand même des signaux certainement plus favorables sur la maîtrise des travaux.
Une pondération néanmoins, c'est que l'inquiétude de l'ensemble de nos confrères, c'était justement, alors avant la crise du Covid-19, là, la reprise des mises en travaux après les élections, alors pas forcément juste après, mais en septembre 2019, qui risque d'avoir un impact sur une grosse demande auprès des entreprises. Donc il y a aussi ça qui est intéressant.
Ouais, c'est un très bon point. Quand les élections municipales deuxième tour sont passées, il pourrait y avoir un redémarrage de beaucoup de projets qui étaient bloqués par les municipalités.
Ouais.
C'est positif pour l'amortissement des frais fixes, mais qui en même temps n'est pas très positif pour notre relation de négociation et ses entreprises de travail.
Tout à fait.
Et juste sur votre capacité à ajuster votre offre sur les programmes en
cours,
je pense que c'est très récent,
Fabrice.
Mais sur les vous avez aussi des possibilités.
Bah, la capacité à ajuster notre offre, déjà, pour répondre à votre question sur la prise en compte des 12 000 euros, c'est compliqué de prendre en compte ces 12 000 euros lorsqu'on maîtrise de nouveaux terrains. Donc, en fait, la façon de on est très attentif lors des décisions significatives, notamment les achats de terrains. Donc, pour vous donner, on achète, en 2019, on a acheté des terrains avec un taux de précommercialisation moyen de 50%. Voilà. Donc,
un élément pour compléter ce que dit Fabrice, c'est en fait il y a l'offre en cours. Quand vous êtes en chantier, vous n'avez absolument aucun facteur d'ajustement sur votre offre. Vous êtes en chantier, vous avez des appartes qui vous restent à vendre, vous en avez qu'une partie qui est commercialisée. Là, il faut les vendre quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression du moment. Et donc, mais néanmoins, ils ont une attractivité, ces appartements en stock en chantier, ils ont une attractivité qui est de plus en plus importante au fur et à mesure que vous rapprochez la livraison, parce que si vous êtes proche de la livraison, moins vos clients ont intérêt à salaire, moins vos clients doivent y payer avant de pouvoir prendre possession de leur bien, et plus l'appartement est réel pour le client, et donc plus vous avez une population potentielle de clients qui est importante. Parce que les clients, là, il y a beaucoup de gens qui détestent acheter sur plan et qui préfèrent acheter des choses qui sont presque finies, avec peu de risques de manque de confiance de la part du promoteur. Et donc normalement, c'est ce qu'on a vécu en 2008-2009, ces stocks en travaux, même dans des périodes de stress très fort, vous arrivez quand même à pas trop mal les commercialiser, quitte à accompagner un peu avec des aides à la vente, quoi que ce soit d'autre. Même au quatrième trimestre 2008, alors que le monde était en train de partir en spirale, on faisait des réservations brutes. On a eu des très forts désistements, mais on arrivait à faire des réservations brutes dans pas mal de nos programmes en cours de chantier. Ce qui n'est pas lancé en travaux, ce qui est en général, donc non, pas non plus acheté, le terrain n'est pas acheté, en fait, si jamais vos commercialisations ne passent pas très bien, bah, dans ce cas-là, vous allez trancher votre offre commerciale, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 80 logements sur le marché, bah, vous allez juste présenter 20, 25 logements pour voir si ça se commercialise convenablement, pour donner un peu moins d'offres, et quitte à amortir mieux la baisse des rythmes. Vous allez renoncer à certaines commercialisations ou les reporter. Vous allez changer certains équilibres de programme et retravailler son propre programme de façon à ce que les produits soient plus adaptés à la nouvelle demande. Et donc, vous avez là une faculté d'ajustement sur votre offre qui n'est pas encore en chantier, qui est assez forte. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe à chaque retournement de cycle de ce marché. C'est-à-dire que vous ajustez votre offre à ce que vous percevez la demande, soit l'échéancer, soit y renoncer totalement si jamais les produits ne sont pas du tout viables. Donc, elle est assez forte, la capacité d'ajustement de l'offre à long terme.
D'accord. Donc, on ne doit pas s'attendre à des marges brutes en France qui seraient beaucoup plus basses que 18%. 18%, c'est ce que vous aviez en 2009, par exemple.
Oui, on aimerait. On ne fait pas trop de prévisions, puisqu'on fait un exercice difficile, surtout si ça concerne l'avenir. Donc, honnêtement, on a l'impression quand même que c'est un bas de fourchette, mais on n'en parle rien du tout. Qui est-ce qui pouvait prévoir que le pays serait confiné il y a quelques semaines? Et donc, Donc ce qu'il faut, c'est surtout, et c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps, mais on a un côté pour ça un peu à l'ancienne, c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à vous parler du bilan et qui sont tous tangibles. C'est ce qui nous rassure, c'est le fait d'avoir de la trésorerie et des contrats durs en très grande quantité. Ensuite, le reste, la marge d'opération, on la défendra aussi bien qu'on peut, mais voilà. Ce qui est sûr, Jérémy, pour vous répondre, c'est que si jamais les marges brutes des opérations qui sont en cours de montage sont trop faibles, vous n'avez pas intérêt à avancer les dossiers. Dans ce cas-là, vous les retravaillez, vous les reportez, vous rediscutez avec les propriétaires fonciers. Enfin, c'est les mécanismes d'ajustement que des générations de promoteurs connaissent bien.
D'accord. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, je me permets de poser une autre question par rapport au lancement des opérations et l'équipe des opérations. Est-ce que cette augmentation des coûts de travaux, en fait, vous a conduit peut-être à revoir le montage, peut-être à travailler davantage les cahiers des charges, etc. Qu'est-ce que vous me faisiez peut-être à une certaine période où effectivement la partie travaux était passée peut-être après? Est-ce que vous êtes réorganisé un peu?
Après, je vais répondre avec toi, mais la partie travaux est jamais complètement passée après chez nous, hein, parce que c'est quand même le cœur du métier de monter les dossiers, de maîtriser les coûts de revient. Mais je dirais que ça a eu un impact sur, j'ai un pourcentage en l'air, c'est vrai, tu me dis si je me trompe, peut-être 80-90% de dossiers. Donc on a été très attentifs et on a, mais comme tous nos confrères, hein, on a dû revoir en profondeur pas mal de paquet de l'évolution des travaux. Et la quasi-totalité de notre production qui a dû être analysée pour voir ce qu'on pouvait faire pour faire face à cette vague de hausse des coûts de travaux. Encore une fois, qui n'est pas vraiment qui est moins le à l'heure du jour, parce que même s'il y a l'offre municipale, les carnets de commandes des entreprises ne vont pas massivement ressortir dans les prochaines semaines. Il y a d'autres questions? De toute façon, pendant que Pierre et moi restons à votre disposition, évidemment, par email et téléphone, on est absolument joignable quand ça vous arrange, particulièrement en ce moment. On est à votre disposition si les questions vous viennent après cet appel téléphonique. S'il n'y a pas d'autres questions, à nouveau, je vous remercie beaucoup d'y avoir insisté. Et bien évidemment, on souhaitait vous communiquer à tous à la fois un sentiment de confiance et de sérénité, et puis notre amitié professionnelle pour tous ceux d'entre vous qu'on connaît personnellement, et notre recommandation de rester évidemment en santé, de prendre bien soin de vos proches et de vous-même. Et à nouveau, pour ceux qui n'ont pas nos coordonnées, mm@lmc.fr pour ce qui me concerne, et pr@lmc.fr pour ce qui me concerne. Merci beaucoup à tous. À très bientôt.
Merci. 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 Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.